Les parts actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualité, édition du 10 janvier 2018. Hélène Denis au micro et en manchette aujourd'hui, Trudeau interpellé sur plusieurs enjeux lors d'une assemblée publique en Nouvelle-Écosse, des élus scandalisés par les télévisions à 289 $ du CHUM, un cours de patinage pour les enfants aux besoins particuliers à Rimouski et paralysé après avoir contracté le virus du Nil. En entrevue, je reçois Marc-Antoine Tanguay, directeur des relations extérieures et des stratégies, porte-parole d'Allo Prof Parents, qui a été lancé le 24 novembre dernier, ainsi que Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2, qui vient nous parler de l'importance d'accompagner les étudiants en situation de handicap à trouver un emploi avant qu'ils ne terminent leurs études. Une nouvelle tirée de l'actualité, Trudeau interpellé sur plusieurs enjeux lors d'une assemblée publique en Nouvelle-Écosse. Le premier ministre Justin Trudeau a fait face à un barrage de questions difficiles lors d'une assemblée publique dans la région de Halifax mardi soir, dont celle d'un membre de la marine aux prises avec la maladie de Lou Gehrig et celle d'une mère dont l'enfant est atteint d'autisme sévère. Monsieur Trudeau a participé à une séance de questions-réponses qui se tenait dans un gymnase d'une école de Lower Saxville, en banlieue de Halifax, dans le cadre d'une tournée de la province. Un homme atteint de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, ou maladie de Lou Gehrig, qui s'est présenté comme un membre de la Marine royale canadienne et un père de deux enfants, a demandé au premier ministre pourquoi il n'avait pas le droit d'essayer des médicaments expérimentaux pour combattre la maladie dégénérative. M. Trudeau a répondu que le processus pour approuver de tels médicaments se devait d'être rigoureux et basé sur la science. Une autre question a été posée par Carly Sutherland, dont le fils de 9 ans, Callum, est atteint d'autisme sévère, ce qui lui occasionne des crises très violentes. Elle a demandé à M. Trudeau s'il pouvait s'engager à présenter une stratégie nationale sur l'autisme. M. Trudeau a reconnu que Mme Sutherland n'était pas la seule à affronter de telles difficultés, mais il n'a pas répondu précisément à sa question sur la stratégie nationale sur l'autisme. Nouvelle tirée du Journal de Montréal, des élus ont dénoncé mardi la facture de 300 $ par mois des patients du CHUM pour la télévision dans leur chambre, tandis que le méga-hôpital reste muet sur l'argent qu'il en retire. J'ai moi-même été surpris de voir les tarifs de ces services. C'est une décision qui est locale et l'établissement a la pleine autonomie de faire de tels choix. S'est défendu le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. C'est indécent tout simplement. C'est scandaleux de savoir que l'hôpital en tire une source de financement. Alors qu'une grande partie des impôts des contribuables paie déjà le système de santé, s'est insurgée la députée caquiste Lise Lavallée. Pour sa part, le député péquiste Sylvain Pagé a qualifié le système d'abusif, demandant du même coup au ministre de donner une directive claire au conseil d'administration des hôpitaux pour changer ce stratagème. Mardi, le journal révélait que le CHUM faisait payer 289 $ par mois pour une télévision, soit le triple de nombreux autres hôpitaux. Avec l'accès Internet, lorsqu'il sera disponible, la facture grimpera à près de 400 $ par mois. C'est l'entreprise Mozino qui a été choisie par le conseil d'administration du méga-hôpital pour offrir ce service et elle verse une commission au CHUM. Le CHUM a refusé de dévoiler le montant qu'il recevait de l'entreprise qui loue les téléviseurs. La porte-parole Lucie Dufresne a indiqué par courriel que cette information n'était pas de nature publique. Et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Marc-Antoine Tanguay, directeur des relations extérieures et des stratégies, porte-parole d'Alloprof Parents, un service d'Alloprof qui existe depuis plus de 20 ans, mais Alloprof Parents existe depuis le 24 novembre dernier. Bonjour, Marc-Antoine.
Bonjour, Madame Denis.
Qu'est-ce que ce service?
Alors, Alloprof est déjà assez connu. C'est un service de soutien scolaire pour tous les élèves du Québec au primaire et au secondaire. Et Alloprof Parents, mais c'est le petit nouveau, c'est le dernier service qu'on vient de lancer et qui s'adresse spécifiquement aux parents. Donc, aux parents des élèves pour les soutenir aussi, parce que c'est pas parce qu'on est adulte et parent qu'on n'a pas besoin d'un petit coup de main de temps en temps.
Ça, c'est sûr. Et dans quel cas de figure on peut appeler Alloprof Parents?
Alors, on peut appeler Alloprof Parents pour de l'aide aux devoirs. Évidemment, il y a beaucoup de parents qui accompagnent leurs enfants dans les devoirs et qui se posent plein de questions, notamment parce que les programmes ont changé, la façon d'enseigner aussi, les termes des fois sont pas les mêmes. Alors, on aide les parents à rester impliqués en leur expliquant c'est quoi la nouvelle terminologie, comment résoudre tel problème, et on répond comme ça à leurs questions ponctuelles. Aussi, les parents ont d'autres types de questions, des questions qui peuvent toucher des fois à des préoccupations sur d'éventuels problèmes d'apprentissage de leur enfant, peut-être sur des problématiques du quotidien à l'école.
Ça peut aller jusqu'à exactement. Un service presque de psychologie. Qui sont les experts qui conseillent les parents?
Bien, c'est ça, c'est pas des psychologues. Puis quand ça va dans ces zones-là, on les réfère vers les bonnes ressources. Mais nous, ce qu'on leur offre, c'est des services, de l'assistance par des orthopédagogues, des enseignants en adaptation scolaire. Donc, des gens qui sont au fait de ces problématiques-là qui peuvent se présenter et qui sont à même de bien informer les parents et de les guider justement vers des ressources quand c'est nécessaire.
Mm-hmm. Alors, les experts, ce sont, vous dites, des orthopédagogues, des professeurs surtout, j'imagine, qui répondent aux questions.
C'est ça, exactement. Des enseignants en adaptation scolaire, des orthopédagogues, donc des gens qui ont déjà une pratique de l'expérience et qui ont plein de trucs à donner aux parents qui ont besoin de ce soutien-là peut-être ou qui souhaiteraient peut-être faciliter la période des devoirs ou mieux outiller leur enfant dans ces problématiques-là qu'ils peuvent rencontrer dans l'apprentissage. Alors, ils sont là gratuitement. C'est important de le préciser.
Alors, j'imagine que vous êtes
à toutes ces questions.
Oui, et vous êtes en mesure de répondre aux demandes concernant les enfants à besoins particuliers?
Oui, à ce niveau-là, il existe aussi des ressources vers lesquelles on peut guider les parents, mais évidemment, on a aussi une panoplie de conseils à offrir, dépendamment du type de problématique auxquelles font face les enfants ou les parents. Ce qui est bon de savoir aussi, c'est qu'on a une plateforme en ligne avec des centaines de contenus qui, justement, abordent ces différentes problématiques-là. Mm-hmm. Et tous ces contenus-là comportent des fichiers audio, donc une version audio et une version texte, peut-être pour faciliter aussi là, la lecture ou l'écoute des conseils que peuvent donner nos experts.
Oui, et qu'est-ce que la messagerie Facebook Alloprof Parents?
Alors ça, c'est tout nouveau. C'est la première fois qu'on utilise la messagerie Facebook pour pouvoir être en communication avec les parents. Donc, non seulement les parents peuvent nous appeler pour obtenir de l'aide, mais ils peuvent aussi le faire via la messagerie de la page Facebook Alloprof Parents. Donc, il suffit tout simplement de s'inscrire à la page Alloprof Parents Facebook. Puis après, on peut poser ses questions et nos experts vont pouvoir répondre via la messagerie. Donc, ça reste une conversation privée.
Oui, alors il y a plusieurs façons de vous joindre. On peut appeler du lundi au jeudi de 17h à 20h?
Exactement, c'est comme pour Alloprof, c'est les mêmes heures d'ouverture lundi au jeudi, 17h à 20h.
Oui, et combien de temps dure un appel en moyenne, là?
C'est encore tôt, on l'a lancé il n'y a pas très longtemps, mais on parle déjà de peut-être une douzaine de minutes en moyenne par conversation. C'est presque 50% de plus que les conversations moyennes d'Alloprof avec les élèves. Mm-hmm. C'est peut-être normal aussi, le service est nouveau, puis peut-être que les problèmes nécessitent aussi une intervention un petit peu plus longue.
Alors, est-ce que vous êtes bien occupé? Vous dites que le service est nouveau, les gens doivent savoir que vous existez pour avoir envie de vous appeler. Alors, est-ce que vous avez fait un peu de promotion? Là, vous nous parlez aujourd'hui, là, mais...
On a fait un très, très beau lancement. On avait le plaisir d'avoir le ministre de l'Éducation et également les gens de la Fondation Desjardins, qui sont nos deux partenaires financiers qui étaient présents et qui ont probablement contribué aussi à une belle présence médiatique lors du lancement et qui font aussi la promotion là, dans leur réseau. Je pense à Desjardins, par exemple, qui compte un réseau de caisses impressionnant et de membres auxquels ils font la promotion.
Tant mieux.
On fait aussi la promotion dans les réseaux sociaux, évidemment, via la plateforme Alloprof, qui est déjà déjà consulté plusieurs millions de fois par mois.
Oui. Et à Canal M aujourd'hui.
Et à Canal M surtout.
Est-ce que ce service existe ailleurs dans le monde, M. Tanguay? Je vous ai coupé la parole. Pardon?
Ah non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'équivalent. Non, Alloprof est unique en ce sens que c'est vraiment réfléchi comme un ensemble de services qui peut répondre à toutes les préoccupations que peut se poser un élève ou un parent d'élève et qui essaie d'intervenir dans les différents moyens de communication qui sont pertinents à sa portée. Alors, c'est pour ça qu'on développe des vidéos, c'est pour ça qu'on développe, on a des forums, on a le téléphone, on a le texto, on a la messagerie Facebook. Puis, de cette façon-là, on est présent à peu près dans tous les univers fréquentés, que ce soit par les jeunes ou par les parents. Et donc, ça facilite énormément la communication et tout ça reste gratuit. Ça, ce modèle-là n'existe pas ailleurs.
Ah oui. Alors, comment faire pour rendre la période des devoirs agréable? Parce que pour certains, c'est une source de grand stress pour certains parents et pour certains élèves aussi. Mmh.
En fait, une grande majorité des parents disent que c'est, à l'occasion au moins, une source de difficultés, une problématique à affronter. Il y a différents trucs, puis ça dépend vraiment de ce qui se produit. Des fois, c'est que l'enfant n'est pas motivé à faire ses devoirs. Alors, à ce moment-là, il faut voir pourquoi il n'est pas motivé, il faut creuser et peut-être voir des moyens pour rendre ça plus motivant qui peuvent être soit de déconstruire les idées négatives qu'il y a autour du travail scolaire ou encore bien, peut-être que ça peut être d'offrir une forme d'encouragement, de rétribution pour le travail accompli, puis savoir que justement les encouragements, même verbaux, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose qui est très important pour un enfant. Un enfant à la base cherche à faire plaisir à son parent ou à son enseignant. C'est un des facteurs qui le motive beaucoup plus que d'apprendre comme tel. En général, les enfants cherchent à faire plaisir. Alors, de s'inscrire plutôt dans cette logique-là que dans une logique coercitive où il y a de l'affrontement. Et ça, ben, il y a plein de trucs pour y arriver. Évidemment, il faut consulter nos experts pour avoir vraiment le conseil précis.
Alors justement, si on veut vous consulter, vous avez un site Internet, on peut y aller par Facebook et aussi par téléphone.
Par téléphone, c'est le 1-855-527-1277 et tous ces services-là sont gratuits. Le site Internet, évidemment, est disponible 24 heures par jour, 7 jours semaine. Puis sinon, messagerie Facebook et téléphone, c'est du lundi au jeudi de 17h à 20h.
On serait bien bête de s'en passer. Allô, prof, parents, bravo, merci de cette initiative. Puis vous allez devenir vite un service essentiel. Marc-Antoine Tanguay, directeur des relations extérieures et des stratégies, porte-parole d'Allô, prof. Parents. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Un cours de patinage pour les enfants aux besoins particuliers à Rimouski, c'est dans l'avantage.qc.ca, coordonné pour une deuxième année par la patineuse de 21 ans et entraîneuse au club Louise-André Saussier. Ce cours est ouvert aux enfants vivant avec des déficiences intellectuelles ou physiques, entre autres troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, autisme, trisomie 21, retard global du développement ou encore troubles de l'équilibre. C'est pour les enfants qui ne peuvent pas fonctionner en groupe. Ici, ils peuvent évoluer à leur rythme en bénéficiant d'un encadrement personnalisé. L'apprentissage se fait par le jeu et au moyen de différents outils. On utilise beaucoup de matériel adapté. Madame Saussier précise qu'il s'agit d'un cours offert par Patinage Canada, mais qu'elle a adapté aux besoins particuliers de sa clientèle. Madame Saussier travaille comme éducatrice spécialisée dans une école en parallèle. Cette année, elle entraîne 3 jeunes dans ce cours, tout comme l'année dernière. Elle espère en accueillir davantage. On veut continuer à offrir ce cours qui se donne en automne, hiver et au printemps, à raison de 55 minutes le samedi. Je me mets une limite de 10 jeunes sur la glace et je supervise et forme mes assistantes de programme qui ont entre 12 ans et 18 ans. Les inscriptions au club de patinage de Rimouski sont en hausse, selon sa présidente Cathy Blanchette, alors qu'un nouveau cours vient de s'ajouter pour les tout-petits de 3 et moins. Après patinage plus, le club compte une centaine d'inscriptions, dont environ 80 jeunes de 3 ans et plus. On parle maintenant avec Manon Boisvert de l'importance d'accompagner les étudiants en situation de handicap à trouver un emploi avant qu'ils ne terminent leurs études. Madame Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre Essor 2. Bonjour, Madame Boisvert.
Bonjour, Madame Denis.
Alors, quel est l'intérêt pour un étudiant en situation de handicap de s'inscrire à un service spécialisant de main-d'œuvre avant la fin de ses études?
C'est qu'il va recevoir de l'accompagnement là, pour l'aider à cibler les emplois, l'emploi qu'il désire ou des employeurs également. Et en s'inscrivant d'avance, ça lui permet de pouvoir là, travailler à la fin de ses études plus facilement, plutôt que de rester à la maison là, et de prendre des mauvaises habitudes et perdre ses acquis.
Oui, c'est vrai.
Donc, nos conseillers en emploi vont les aider à se préparer, par exemple, préparer un CV, préparer pour l'entrevue. On fait des simulations d'entrevues, on regarde avec eux justement les employeurs qui ont des postes à combler là, dans le domaine où ils veulent travailler.
Il faut battre le fer quand il est chaud.
Oui, exactement.
Et quel est le délai? Allez-y.
Oui, et ce que j'allais dire, c'est qu'on peut aussi leur permettre de faire un stage de 4 semaines, là, des stages d'observation pour aller voir ils ont de l'intérêt pour le poste ouvert ou encore pour voir pour l'employeur aussi peut voir si la personne répond aux besoins de l'entreprise.
Bon, très bien. Et quel est le délai d'attente pour avoir un rendez-vous?
Bien, ça dépend des points de service. Nous, dans la Naudière, là, c'est entre 1 et 2 mois. À partir du moment où la personne est rencontrée, elle est inscrite là pour 1 an. Mm-hmm. Donc, ce qu'on souhaite, bien sûr, c'est lui trouver un emploi au plus vite, mais un emploi qui corresponde à ses besoins et à ses capacités. Donc, on va prendre le temps d'évaluer avec lui, là, avec la personne, ses besoins.
Et de quel service l'étudiant pourra bénéficier au sein du service spécialisé de main-d'œuvre?
C'est ça, c'est sa démarche de recherche d'emploi, mais également, une fois qu'il est en emploi, s'il a des problèmes, nous, on fait des suivis avec l'employeur et avec l'employé. Bien sûr, c'est l'employé le désire. Puis, dans le fond, c'est qu'il y a aussi vit des problèmes. On peut sensibiliser les collègues de travail, l'employeur à ses difficultés et aussi à ses forces. Donc, s'il vit des difficultés, ben nous, on peut l'aider, on peut intervenir là, autant avec lui qu'avec l'employeur là, pour faire en sorte qu'il maintienne son emploi et qu'il n'abandonne pas là, pour des fois des petits détails qui peuvent faire toute la différence.
Oui, comme
on
quoi?
Par exemple, on peut établir une liste de tâches que l'employeur n'aura pas nécessairement fait. Donc, nous, on peut faire une liste de tâches pour que la personne peut cocher, par exemple, à chaque jour, si elle a des problèmes de mémoire ou quoi que ce soit, ou adapter le poste. Des fois, les personnes sont plus sensibles au bruit. Donc, on peut essayer de voir avec l'employeur comment on peut adapter le poste de travail là, pour qu'il y ait moins de bruit. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire là, en collaboration aussi avec les partenaires là, du milieu pour faire en sorte que la personne là, soit bien dans son poste.
L'étudiant n'est pas laissé à lui-même.
Non, c'est ça. Ouais. Il n'est pas laissé à lui-même. Et ça, c'est tout au cours de son emploi. Il peut nous appeler en tout temps pour qu'on puisse l'aider, soit qu'on se rende sur place dans l'entreprise ou encore que la personne ne veut pas qu'on se déplace, ben, elle peut venir aussi rencontrer nos conseillers en emploi, agents d'intégration et obtenir des services là, qui vont l'aider. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans le fond, ce qu'on dit pour les étudiants, pour qu'ils vivent une première belle expérience aussi, c'est l'importance de bien cibler l'emploi avec les capacités de la personne. C'est dans nos services spécialisés, c'est là-dedans là, qu'on est spécialiste en fait. Là. Donc, c'est de bien cibler un emploi qui va correspondre là, à la personne. Parce que des fois, les gens vont dire, bon, je suis capable par moi-même et tout ça. Ils vont essayer des postes, mais qui ne conviennent pas là, à leurs difficultés.
Il faut réfléchir avant de se lancer.
Oui, exactement. Et ça permet de vivre des belles expériences, autant pour l'employeur que pour l'employé. Là.
C'est ça.
C'est de trouver, comme on dit, le match parfait là, entre les deux.
Oui. Exactement. Et si on parle de statistiques, combien de temps en moyenne faut-il pour qu'un jeune trouve un emploi sur le marché du travail régulier après être passé chez vous?
Bon, c'est très variable là, d'une personne à l'autre. C'est vraiment du cas par cas, mais souvent, on va les aider. Par exemple, là, ce serait le temps pour un étudiant de s'inscrire dans nos services. S'il est rencontré en mars, bien, il y a des fortes chances qu'il obtienne un emploi là, pour l'été, là, à la fin de ses études.
Ah, mais c'est
donc,
encourageant.
Des fois, ça peut être plus long, dépendamment du travail qu'il y a à faire avec la personne aussi. Parce que des fois, même si elle est aux études, l'estime de soi n'est pas toujours très élevée quand ils ont des limitations, dépendamment encore là, de chaque personne. Et là, on va travailler beaucoup là-dessus, sur l'estime de soi, pour que la personne... Et vraiment aussi, dépendamment de quelle formation ils terminent, c'est ça, c'est au niveau secondaire, ils ne se connaissent pas toujours, ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire. Donc, il y a plus de travail à faire pour justement trouver là vraiment les intérêts de la personne, là, trouver cibler des postes en fonction de leurs intérêts.
Oui.
Donc, c'est ça, c'est vraiment... Et par contre, on a des étudiants qui terminent des techniques au niveau collégial ou universitaire. Alors là, c'est bien différent. Ils se connaissent mieux, souvent. Ils connaissent ce qu'ils veulent faire. C'est plus facile aussi. Là, on va cibler plus vite les employeurs.
Et est-ce qu'il y a autant d'étudiants et d'étudiantes qui font affaire à vos services?
Oui, oui, il y a autant, on est pas mal, c'est pas mal égal là, au niveau des hommes-femmes, là, jeunes étudiants et étudiantes.
Et quels sont leur âge? Quel est leur âge?
Bien, si on regarde, là, on a beaucoup là, début vingtaine,
oui.
Puisque quand ils sont dans des classes spéciales au niveau secondaire, au niveau des commissions scolaires, ils terminent à 21 ans. Des fois, ils vont commencer à venir chez nous un peu avant. Mais quelquefois, c'est ça, ils arrivent plus tard et c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont pris des mauvaises habitudes en restant chez eux. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on essaie de faire de la sensibilisation pour qu'ils s'inscrivent avant la fin de leur formation. Et puis, si on regarde dans notre service, dans la Naudière, là, on a 52 % de la clientèle qui était admise l'année dernière qui était de 35 ans et moins.
Ah,
donc,
oui.
On a beaucoup de jeunes.
Bon, bien, c'est encourageant.
Oui, c'est très encourageant de voir qu'ils viennent dans nos services et qu'ils demandent de l'aide. Mais c'est ça, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils viennent dès la fin, avant la fin, pour qu'ils puissent être placés dès la fin de leurs études.
Parfait, Mme Boisvert. Si on veut vous rejoindre pour avoir plus d'informations, parce qu'on doit se laisser, le temps nous manque,
oui.
Quel est le numéro de téléphone que vous pouvez nous donner?
Oui, c'est le 450-755-3855, juste à parler à la réceptionniste et à mentionner votre intérêt de vous inscrire.
Parfait. Merci, Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre SR2.
Je vous en prie.
Au plaisir.
Au revoir.
Paralysé après avoir contracté le virus du Nil, c'est sur le site de Radio-Canada, une piqûre de moustique a changé la vie de John Hughes. Pompier volontaire dans la municipalité de Roland, au Manitoba, un moustique lui a transmis le virus du Nil en 2016. « Un matin, je me suis réveillée avec une toux et je ne pouvais plus sentir mes jambes », explique le Manitobain. « Cette paralysie a provoqué toute une onde de choc. J'ai paniqué, j'étais vraiment inquiet et surpris. » Il pensait que son passé médical et ses problèmes de foie étaient les responsables de cette paralysie. Sa femme l'a conduit à l'hôpital. 5 jours plus tard, il a été plongé dans un coma causé par le virus du Nil. Après 4 mois, il s'est réveillé avec une assistance respiratoire dans la gorge. « Je ne pouvais pas parler, j'étais toujours paralysé, je n'avais aucune connaissance du temps », se rappelle-t-il. 14 mois plus tard, après avoir contracté le virus, John Hughes subit toujours les effets de cette piqûre. Il est en fauteuil roulant, mais se dit très reconnaissant des soins médicaux reçus. « J'ai été traité au Centre des sciences de la santé à Winnipeg et l'équipe médicale est géniale. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais le personnel de l'hôpital a sauvé ma vie. De retour à la maison, M. Hughes peut manger et respirer de lui-même. Incapable de marcher, il fait de la réadaptation tous les jours pour regagner de la force dans ses jambes. » Un réseau ferroviaire adapté aux non-voyants. Se déplacer en France lorsqu'on est aveugle relève parfois de l'exploit. Prendre le bus, le métro, monter à bord d'un train, toutes ces tâches du quotidien sont de réelles épreuves à surmonter. La situation est la même dans bon nombre de pays en Europe. Partant de ce constat, les Pays-Bas ont décidé d'aménager quelques 400 gares pour permettre aux non-voyants de se déplacer en toute sécurité, sans avoir besoin d'un accompagnant. C'est le premier État au monde à disposer d'un réseau de chemin de fer entièrement équipé de la sorte. Près de 30 millions d'euros ont été investis. À l'intérieur des gares, les dispositifs utilisent l'ouïe, le toucher, les couleurs vives. Des bornes sonores donnent des indications pour permettre de se repérer. Aussi, de nombreuses indications en braille, notamment sur les rampes d'escalier et les ascenseurs. Dans les quatre principales gares du pays, on trouve même un plan détaillé des lieux en braille, des aménagements qui ont changé la vie de nombreux voyageurs non-voyants. Et en rafale, le RAM propose des cours de Pilates les jeudis de 10 à 11h30 pendant 10 semaines au centre communautaire Berthe Réaume. Début des cours jeudi 18 janvier, l'animatrice est Christiane Rosen et le coût 30 $. Date limite d'inscription lundi 15 janvier. La participation de 8 personnes minimum est requise pour la tenue de cette activité, maximum 10 personnes. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire en appelant Anna au 514-277-4401 poste 111, 514-277-4401 poste 111. Un cours de Pilates se compose d'échauffements articulaires qui préparent au renforcement musculaire de chaque partie du corps, des abdominaux et des dorsaux. L'équipe de Corpuscule Danse reprend tranquillement son souffle et a hâte de vous retrouver. Session hiver 10 semaines, ça commence le samedi 27 janvier 2018. Cours enfants 5 à 11 ans, 11h45 à 13h. Cours ados 12 à 18 ans, 13h15 à 14h30. Lieu, département de danse de l'Université du Québec à Montréal. L'adresse 840 rue Chérié, local 1150. Et pour ce qui concerne le tarif, 165 $ pour 10 classes. Session de printemps à payer en avril, 4 classes, 65 $. Nous offrons un programme pédagogique adapté aux enfants à besoins particuliers de 7 à 18 ans, handicap physique, déficience intellectuelle légère à moyenne et enfants sans handicap. Alors, on vous invite à vous inscrire. La période est commencée. Inscription obligatoire d'ailleurs via le formulaire en ligne à l'adresse suivante. www.corpusculedanse.com/formulaire-inscription-enfant.php. Mais je vous donne un numéro de téléphone, ce sera plus simple, 514-759-5316, 514-759-5316 pour des cours de danse. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'émission Les Paractualités, émission du 10 janvier 2018. Merci à mon équipe, à la recherche Anne-Laure Janson, à la technique Jean-Sébastien Laliberté. Et merci à mes invités d'aujourd'hui, Marc-Antoine Tanguay, directeur des relations extérieures et des stratégies porte-parole d'Alloprof Parents, ainsi que Manon Boisvert, directrice générale du service spécialisé de main-d'œuvre SOR2. Ici Hélène Denis, à bientôt!